imaginaire collectif et solidaire s'est créé lors de la pandémie. Il a émergé pour lutter contre les injustices sociales accentuées durant la crise sanitaire. Des initiatives d'entraide ont vu le jour et donné consistance à des modes d'auto-organisation. You Are Here souhaite rendre audibles les récits des habitantes invisibilisées de Bruxelles et cartographier ces gestes de résistance qui modèlent une société du prendre soin. Dans cet épisode You Are Here, nous entendrons Émilienne pour l'occupation du Théâtre National de Wallonie-Bruxelles à partir du vendredi 19 mars 2021, puis Timios pour l'occupation de la Monnaie à partir du samedi 3 avril 2021, avec les voix du collectif Besette la Monnaie Occupée, Selma Ben Khalifa et Maria pour Utsopi.
En fait, l'occupation, elle est la suite de tout un énervement qui a commencé il y a bien longtemps, qui a commencé en fait avec le confinement, en effet, où la question, c'est pourquoi les théâtres qui ne sont pas des clusters affirmés sont fermés, alors que d'autres endroits qui sont probablement des clusters, comme les avions, comme les centres commerciaux, etc., ceux-là sont ouverts. Et donc, quelle est la logique qu'il y a derrière ? Alors, je m'appelle Émilienne, je suis actrice de formation, puis j'ai fait aussi un master en ciné-docu. Je suis un peu touche-à-tout, artiste pluridisciplinaire, même si en général, les contrats, c'est vraiment qu'avec mon job de comédienne. Mais avant ça, il y avait eu d'autres actions, notamment avec Still Standing. Clairement, moi, j'avais été aussi dans des groupes de travail sur des actions avec des fédérations et qui réfléchissaient. Et il y avait eu l'option aussi d'occuper la Monnaie. Mais tout ça n'était encore que des paroles, des discussions, etc. Il y en a qui ont pris la décision, qui ont dit « voilà, en fait, on ne va pas faire l'action parce qu'on est en train de négocier politiquement, etc. » Et donc, il y avait une frustration qui était énorme. Quand Denis me téléphone plus tard pour me dire « Milou, le Théâtre National serait partant », alors je dis « ok, c'est dommage parce que ce n'est pas une institution fédérale, etc. » Mais allons-y, c'est une grosse institution et qui symboliquement veut dire quelque chose. Et donc très bien, on avait les clés et on avait la possibilité de le faire, donc on l'a fait, sans trop avoir préparé, quoi. Bon, déjà, il y a une très très grosse différence entre la première semaine d'occupation et la suite. Parce que dans la suite, ça s'est resserré et où il y a quelque chose qui ressemble plus à une identité, un collectif. Mais la première semaine, il n'y avait pas du tout. Parce que pendant la première semaine, il y avait cet appel large à l'occupation et qui n'était pas très clair. Parce qu'en réalité, comme c'était une occupation consentie, ce n'était pas une réelle occupation, entre guillemets, où on va, on occupe un terrain, on occupe par exemple la ZAD d'Arlon contre un projet XYZ. Là, non. Là, on n'occupe pas le théâtre pour mettre par exemple Fabrice Murgia dehors. On n'est pas en contre de ça. On utilise un endroit pour mettre un foco médiatique, c'est pas le Théâtre National l'ennemi. Il est plus large que ça. Et donc, effectivement, pour moi, l'erreur, ça a été d'appeler ce truc occupation. Et ce terme-là a mis un porte-à-faux à plein d'endroits. Et nous, d'arriver à avoir un discours, même sur la réouverture des théâtres, par exemple, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et les deux se valent d'une certaine façon. Moi, parfois, je me dis « Ah, ça me fait peur, en fait, si on revient à la culture d'hier. » La culture comme étant un prétexte, enfin, la soupape qui permet au capitalisme de fonctionner bien à l'aise, parce qu'on a ce truc qui va canaliser, qui va, comment on dit, catharsis, la catharsis du peuple, quoi. Et donc, comme ça, il n'y aura pas de révolte, parce qu'ils peuvent aller au théâtre, du pain et des jeux. Est-ce que c'est ça qu'on a vraiment envie de défendre ? Non. Moi, mon discours, il s'est articulé à l'inverse, en fait. C'est de dire, ben, le théâtre, les lieux de sociabilité, etc., qui sont les lieux où se construisent les pensées, les insurrections, etc., ces lieux-là sont aujourd'hui interdits. Et c'est ça, le problème. En fait, on n'avait pas discuté si précisément que ça. C'était, oui, vous pouvez occuper, punt. On ne savait pas, on leur a demandé des matelas, ils nous ont filé une dizaine de matelas. Et puis c'est en discutant, tout d'un coup il y avait tel administrateur qui était là et puis qui dit oui, je pense que 20 personnes c'est bien. Ah ok, c'est 20 personnes. Mais tout ça s'est décidé comme ça en fait, sur le feu. Et puis il y a l'USPR qui est arrivé aussi, l'Union des sans-papiers pour la régularisation. Et ils ont dit bah voilà, nous on dort là. On a dit bah d'accord. Mais alors, quelle proportion, quel truc, enfin tout ça, en fait, amenait des questions qu'il fallait résoudre très vite, auxquelles on n'avait absolument pas pensé avant. L'USPR est resté, ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont aussi un gros soutien de l'occupation, parce que les choses s'interfèrent. Et donc, il y avait tout un groupe qui a décidé, qui a dit, bah voilà, ce qui serait chouette, c'est qu'on invite des collectifs, des luttes, etc. Et qu'en fait, le théâtre national soit un espèce de centre de convergence, un lieu de visibilité des possibles et de rencontres physiques, de garder ce truc-là qui est rigoureusement interdit. Hein. C'est toujours interdit à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, on a commencé à contacter en premier les fédérations professionnelles du secteur culturel, etc. Et puis, hyper large jusqu'à la Santé en lutte, le collectif Free Assange, etc. Donc j'ai dû interrompre mon occupation du Théâtre National parce que j'avais des répétitions qui reprenaient au Théâtre de la Balsamine sur un projet qui s'appelle Les Lianes. On est une équipe qui s'aimant vraiment beaucoup, beaucoup et on avait très envie de se faire une fondue le soir du premier jour de répétition. Donc on discute, on boit du vin blanc aussi, etc. Et à un moment donné, quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit « Ah, et si on occupait la Balsamine ?» Et donc, le lendemain matin, on est arrivé avec tous nos sacs de couchage, avec nos petits matelas et tout. Puis, on a écrit tout de suite un petit communiqué. Le point d'entrée, c'est les embouteillages, en fait, des projets qui vont arriver à la réouverture, si réouverture il y a. Parce que les Lianes, c'est le deuxième report. On n'aura pas la possibilité de répéter. Parce que tout est tellement ric-rac, c'est tellement l'embouteillage, qu'on aura le jour du montage et bam, le lendemain, première. Or, pour un projet qui a plus été fait pendant un an, quoi. Et le premier matin, donc avant cette soirée fondue, Françoise Berlanger, donc la metteuse en scène, nous a dit on va un peu réfléchir aux formes que pourraient prendre les Lianes, parce que je vais vous avouer, je crois qu'on ne le jouera jamais. Et donc ça a été un vroom, on était tous blancs comme des linges. Et alors, on commence à parler des scénarios possibles. Comment est-ce qu'on est payé pour ces trucs-là ? Est-ce qu'on est payé pour ces trucs-là ? Et donc, le soir, quand il y a eu cette fondue et qu'on a dit « on occupe », c'était parce qu'on ne voyait pas de perspective. Et à un moment donné, moi, je me disais « mais en fait, pourquoi je fais ce métier ? Est-ce que je pourrais encore faire ce métier ? Pourquoi, moi, j'aime physiquement être sur scène ?» avoir un contact physique avec le public. Pourquoi je trouve que c'est important ? Pourquoi politiquement, c'est ça que je fais et c'est pas autre chose que je fais ? Et que très bien, on peut décliner et faire des xième variations des Lianes pour aller dans les endroits des possibles, mais c'est pas ça qu'on veut et c'est pas pour ça qu'on fait ce travail. Et en plus de ça, les Lianes, il y a tout un regard sur l'écologie, en fait, une grosse réflexion là-dessus. Toutes ces questions-là qui sont des questions, en fait, essentielles et qui sont des questions qu'on n'entend plus depuis la grande pandémie, parce que la grande pandémie, c'est le plus important, quoi. Or, hier, il y avait Greta Thunberg, il y avait des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles, il y avait toutes ces générations, tous les jeunes, justement, qui sont hyper brimés, probablement les mêmes qui occupe la monnaie aussi aujourd'hui, etc. Enfin, nous, on voulait faire entendre cette réalité-là hyper spécifique des compagnies et de notre projet aussi de qu'est-ce que ça signifie faire une œuvre d'art à l'avenir, à l'aune des crises, des multiples crises économiques, écologiques, etc. Mais comment on se positionne radicalement en tant qu'artiste ? Et ça, c'est pas nous qui allons aller chez Decroux pour lui dire « Vous savez comment on doit se positionner radicalement en tant qu'artiste, monsieur Decroux ? C'est très important. » On a arrêté des choses comme on n'aurait jamais pu imaginer qu'on pouvait les arrêter. Et maintenant, il faut voir comment est-ce que quels interrupteurs on réactionne et dans quelle dynamique et vers quoi on veut aller.
La première chose qui a été dite vis-à-vis de ce virus, c'est que c'est le lien social qui le transmet. Donc on a associé les contacts sociaux à un danger mortel pour certaines personnes, mais donc même au niveau macro, même au niveau sociétal, on a considéré que le lien social était dangereux. Je le dis en ayant conscience que bien sûr un virus se transmet par des contacts entre des individus. Je suis pas en déni de la vérité de sérologique, on va dire de scientifique, mais par contre l'association entre les deux qui s'est faite, que ce soit dans les discours et qu'elle ait pénétré les esprits de cette façon, je la trouve tout aussi dangereuse. Quand on parle de se confiner l'esprit ou se déconfiner l'esprit, c'est aussi revenir à tout ce lien social, mais aussi qui te connecte politiquement aux autres, qui crée du sens en fait, qui tisse le sens quotidiennement, qui te permet de continuer en fait à agir. Je m'appelle Timios, je suis auteur, metteur en scène, j'ai 31 ans. Pendant la première semaine d'occupation du Théâtre National, il y a déjà eu des liens qui se sont faits entre les personnes, les différentes personnes en présence. Et donc ça, pour le dater, je crois que c'était fin mars. Quelque chose comme ça, donc aux alentours du 26. Et évidemment, ça a pris une semaine de plus de travail acharné pour mettre tout ça en place avec toute la structure et les soutiens qu'on a obtenus par après, que ce soit des fédérations, du milieu associatif, mais aussi finalement des syndicats. C'est finalement eux qui ont réussi à débloquer une négociation avec la Monnaie, puisqu'on avait eu deux refus. Et évidemment avec cette question qui sous-tendait toute cette semaine, à savoir est-ce qu'on fait une occupation légale ou est-ce qu'on s'impose dans le bâtiment à 20 ou plus pour commencer cette occupation et interpeller le gouvernement.
The Mint is beset.
La Monnaie est occupée.
We zijn een collectief van werkers en studenten uit de wereld van cultuur, Frans en Nederlandstalig.
Un des gros points d'importance, c'était de pouvoir prendre les endroits de lutte là où ils se trouvent. On n'est pas still standing, mais on est en grand dialogue avec eux et on défend une grande partie de leurs revendications. Tout comme on voulait aussi, on est en dialogue avec l'occupation du Théâtre National et le travail des fédérations. L'idée, c'était de vraiment poursuivre un travail déjà en place depuis plus d'un an, avec évidemment la particularité qu'on est plutôt un collectif de jeunes artistes et de jeunes étudiants, et que nous, nos revendications, elles sont aussi portées vers une perspective d'avenir, une exigence d'avenir, qui bien sûr se retrouve dans les autres luttes, mais voilà, c'est un peu notre particularité.
Il est temps de considérer les vraies questions que soulève cette situation. Nous ne voulons pas réduire le débat à des assouplissements. En vérité, on se fout de quel secteur sera le premier à obtenir les grâces du Codeco. Ici et maintenant, ce que nous voulons, c'est la continuation du lien social entre les êtres qui est en jeu. Ce lien qui est la substance même de la culture, c'est par ce lien que nous faisons société.
Je pense que l'idée de convergence, c'est plutôt que de défendre des intérêts sectoriels ou personnels c'est d'identifier ce qui nous oppresse tous et de pouvoir lutter ensemble contre ça, en fait, contre, ici clairement, une gestion idéologique de la crise, de la crise sanitaire et un système de valeurs, en fait, qui décide de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas et qui décide aussi sur quel secteur et quel type de personnes le poids des mesures se fera. Donc c'est pour ça que nous, dès le début, dans la lignée de Still Standing d'ailleurs, mais dans la lignée d'autres, on n'a pas voulu défendre une exception culturelle ou une réouverture juste du secteur culturel comme a pu l'avoir les magasins. Enfin, c'est pas notre intérêt, on n'est pas en concurrence avec les autres secteurs précarisés par les mesures. Nous, ce qu'on défend, c'est une reprise des activités porteuses de liens qui, pour nous, cette destruction du lien social, ce dommage du lien social, pour nous, c'est ça le vrai danger, en tout cas un des dangers principaux des mesures gouvernementales.
Nous sommes des jeunes du secteur culturel et nous nous inscrivons dans une lutte plus large, une lutte pour la justice sociale, pour le futur.
The mint is beset.
La monnaie est occupé.
Een federale instelling, een symbool van de Belgische revolutie. Wij roepen de regering op naar ons te luisteren en de gevolgen van haar ideologische stellingname te erkennen.
On occupe cette institution fédérale, ce joyau, ce symbole de la révolution belge, mais nous appelons le gouvernement à nous écouter, à nous entendre et à reconnaître les conséquences de ces postures idéologiques.
Pour nous, ces tribunes, c'était l'occasion de créer tout de suite l'espace d'un débat politique et artistique. Aussi, pour nous, c'était important de donner la voix à ces autres personnes, de ne pas parler pour eux et d'utiliser cet espace qu'on dégageait pour venir y faire exister la possibilité de s'exprimer pour ces personnes et ces secteurs. Mais c'est vrai qu'on a constaté que, bah, que ce soit à la programmation, entre guillemets, donc l'organisation plutôt en fait de ces tribunes ou en tant que spectateur, que y avait en fait un besoin criant de s'exprimer pour des tas de secteurs et des tas de personnes. Et même à certains endroits, énormément de reconnaissance de pouvoir accéder à une tribune de cet ordre-là. J'irai pas jusqu'à dire du soulagement, mais en tout cas, voilà, un grand besoin de pouvoir le faire. Je me rappelle de justement la journée dédiée aux violences policières et au racisme structurel. Il nous a été clairement dit par des personnes qui sont exprimées que ça leur était en fait jamais arrivé d'être invité par des blancs à parler de ces questions-là sur la place publique. Clairement, je pense que la question du privilège qu'on a, nous, même si on a eu des tensions avec la police, même si on a eu des tensions à certains moments avec la direction de la monnaie ou avec le politique, je pense qu'on jouit quand même d'un privilège qui nous permet d'aller assez loin dans le contenu de ces tribunes. Je sais que l'organisation des mouvements sur le sujet, sur la violence policière à Anderlecht, se font de façon beaucoup plus compliquée, beaucoup plus insécure. Ici, il n'y avait vraiment aucun risque. À part, quand même, on a failli se refaire confisquer notre matériel 5 minutes avant. Ça, il faut le savoir. Finalement, ça s'est bien passé parce qu'on a appelé les bonnes personnes. Mais c'est vrai qu'on aurait pu encore être dans l'obligation de tout faire au mégaphone, mais on n'aurait pas été stoppé manu militari en tout cas.
Elle devait décrire l'avenir de la société idéale. Elle reprend les mots de Nazim Hikmet. L'avenir serait un berceau merveilleux, un berceau de satin bleu qui bercera tous les enfants noirs, blancs, jaunes. Pas étonnant pour quelqu'un dont le dicton préféré est « Soyons réalistes, exigeons l'impossible ». Si tous les mots devaient disparaître et qu'il n'en restait qu'un, ce serait Maouda, car la tendresse. Selma Ben Khalifa insiste sur le fait qu'elle n'est pas seulement une avocate militante, mais aussi une mère de famille d'enfants non blancs, et que si tous les jours, elle se bat pour plus de justice sociale, c'est qu'elle a aussi envie que ses enfants évoluent dans un monde plus juste et moins raciste. Je vous demande de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, Selma Ben Khalifa.
Bonjour à tous. Alors voilà, moi je pourrais venir parler ici en tant que maman, comme les mamans du collectif des Madrés. J'aurais pu aussi être la maman de Mehdi ou d'Adil ou d'Ibrahima, parce que moi aussi mes enfants ne sont pas blancs. À la manifestation pour Ibrahima, Alexis de Soif, qui est avocat, a dit cette phrase. Il a dit « si c'était mon fils, ce ne serait pas arrivé ». Si j'ai été invitée ici, ce n'est pas en tant que maman, mais en tant qu'avocate qui me bat pour les violences policières, comme Alexis. Sauf que moi, je n'ai pas ce luxe qu'il a. Je ne peux pas dire si c'était mon fils, ce ne serait pas arrivé. Ça pourrait arriver à mon fils aussi. Et peut-être que ça me donne encore plus de rage pour me battre contre toutes ces violences policières. On m'a invitée ici, pourquoi ? Pourquoi vouloir donner la parole à un avocat, une avocate ? Mais parce qu'on se dit que, en cas de violence policière, pour faire entendre justice, il faut un bon avocat, une bonne avocate. Eh bien, c'est complètement faux. Ça ne sert à rien d'avoir un bon avocat. En cas de violence policière, ce dont nous avons besoin, c'est un bon système judiciaire. Parce qu'avec le meilleur avocat du monde, le parquet demande quand même un non-lieu systématiquement quand c'est des policiers. Avec le meilleur dossier du monde, le dossier de Maouda, c'était clair, le policier a tiré une balle dans sa tête. Ils ont réussi à donner un an avec sursis pour le policier pour homicide involontaire et 4 ans pour le chauffeur de la camionnette pour entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort de l'enfant. Qu'est-ce qui a tué cette petite, la balle ou la camionnette ? Mais la balle, évidemment ! Quand quelqu'un meurt par balle, c'est le tireur le coupable. Eh bien, on trouve quand même un tribunal avec 3 juges et 2 procureurs pour considérer que c'est le chauffeur qui est plus responsable que le policier. Alors, ce n'est pas des gens qui sont bêtes, ce n'est pas des gens qui n'ont pas lu le dossier, ce n'est pas des gens qui n'ont pas compris. C'est des gens qui font partie d'un système qui protège la police, qui protège les violences policières et qui organise l'impunité. Alors ça ne sert à rien d'avoir un bon avocat, ça sert d'avoir un bon mouvement, un mouvement citoyen responsable qui soit là à chaque audience, qui soit là pour alerter la presse, qui soit là pour dire au monde entier que ça ne va pas, que les violences policières, on ne les accepte plus, qu'il ne peut plus y avoir de mort et qu'il faut mettre fin totalement, définitivement, à l'impunité. Je compte sur vous.
Pour moi, il y a déjà quelque chose de très fort qui se joue à l'endroit des tribunes, de l'ordre d'une reconnexion aux sensibles, à différents récits. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous expriment le mot qui me vient, c'est gratitude, mais c'est pas dans un endroit de reconnaissance, c'est plus un endroit de... j'ai envie de dire de soulagement, de pouvoir réentendre ces récits-là, de pouvoir se reconnecter aux autres, en fait, par la coprésence, mais aussi par l'écoute de ces récits-là. J'étais justement fort touché par le jeudi avant, sur le féminisme, il y a une sorte de prise de parole poétique par 3 travailleuses du sexe qui défendent la reconnaissance de leur métier. On sentait en fait que c'était hyper libérateur, qu'il y avait pas vraiment d'autre endroit pour elles en fait d'exprimer ça. Et l'attention qu'on leur apportait, que le public, l'audience leur portait, les soutenait et on voyait le soulagement et le plaisir de pouvoir s'exprimer à cet endroit-là sur un métier qui est complètement invisibilisé depuis avant la crise, mais encore plus puisque puisqu'avec la crise s'applique aussi tout un système de valeurs hyper conservateur et violent.
La place des femmes dans notre société, et plus particulièrement durant cette pandémie, est une thématique centrale pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire les oubliés des mesures prises durant cette période. En effet, les chiffres retracent une flambée des violences conjugales, d'une forte réassignation aux travaux domestiques, au care familial, auquel s'ajoute le télétravail qui engendre des porosités entre travail social et travail domestique. Les travailleuses du sexe n'échappent pas à cette situation, si ce n'est bien entendu pour le télétravail qui n'est pas opérant pour notre métier. L'arrêt de toutes les activités du sexe tarifé a mis en exergue l'extrême précarité des travailleurs et des travailleuses du sexe, quel que soit leur statut. À partir de ce point, je vais vous parler des travailleurs et des travailleuses du sexe en termes de TDS, car la réalité n'est pas binaire et notre secteur regroupe une grande variété de genres. En préambule, je tiens à souligner la dégradation plus forte encore pour les DDS racisés en irrégularité administrative et plus encore pour celles et ceux qui travaillent en rue. C'est une rude période que celle que nous vivons. Les discours officiels répètent sans cesse qu'il est nécessaire de prendre soin de nous-mêmes et de celles et ceux qui nous sont chers. Je vais vous démontrer l'impossibilité faite aux TDS d'appliquer cette expression qui sonne telle une comptine pour des enfants sages. Parlons de Cathy, qui travaille en rue dans un quartier de Bruxelles. Le droit passerelle, le chômage, le RIS du CPS, elle n'a accès à aucun de ces droits. Pourtant, cette femme travaille depuis plus de 10 ans ici, à Bruxelles-Ville. Elle loue un appartement, elle paie son énergie, son eau, elle achète ce qui lui est nécessaire dans nos magasins. Elle paie elle-même ses soins de santé, elle prend soin de ses parents âgés restés au pays. Cette femme, aujourd'hui, avait un peu d'économie. Quand le premier lockdown est arrivé, elle a pu tenir quelques temps. Nous sommes à 1 an de confinement. 1 an où elle a travaillé que quelques mois qui ne lui ont pas permis de reconstituer une épargne. Aujourd'hui, elle sort à nouveau travailler en rue. Elle affronte le mépris collectif d'habitants de ce quartier qui l'insulte, la violente, publie leur page Facebook son nom, son adresse et des vidéos en posture d'attente des clients pour la livrer à la vindicte populaire. Sans travailler, elle ne peut pas payer son loyer. Sans papier, pas de bail. Sans paiement, une expulsion sommaire et immédiate. Elle continue son travail dans les rues. Les hôtels sont fermés. La police la chasse, la verbalise, sans intervenir contre ce collectif qui bafoue ses droits fondamentaux et toutes celles autour d'un bouc émissaire désigné sous le silence des politiques locales qui sont complices. Elle n'a pas d'autre voie, pas d'autre choix. Elle continue, elle affronte le manque de tout, la peur du Covid, le mépris, les violences. Elle continue à payer son loyer, sa nourriture, ses charges, en espérant qu'elle ne tombera pas malade et qu'une ultime agression ne la prive pas du peu de revenus acquis dans la soirée.
Je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience, que ce soit au niveau politique, une prise de conscience de l'urgence en fait, sociale dans laquelle on se trouve. Mais je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. J'oserais pas jusqu'à dire basculement, je l'espérerais, mais je crois que c'est plus le début de quelque chose qui pourrait mener à un basculement. Pour moi, ça repose un peu la question de comment on comprend l'activité culturelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que... Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans le fait qu'on occupe la monnaie, qui est un peu un symbole d'une culture inaccessible. D'une culture bourgeoise, c'est quelle culture on défend et quelles conditions pour produire cette culture on défend. Tout à l'heure, on avait justement une discussion sur une performance qu'on va faire et qui met en scène une ville poubelle ou une ville compost, une ville avec des matériaux bruts, des matériaux de récupération. Et il y avait cette idée de certains de dire, c'est pour mettre en valeur le fait qu'on n'a pas les moyens. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait, cette considération de moyens, de devoir travailler avec des matériaux plus nobles ou est-ce que nos conditions de travail sont décentes? Ça, je le trouve important comme question. Quel est le degré d'aliénation qu'on nous demande pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, ce qu'on rêve faire? Dans quelle relation de subordination on s'inscrit et vis-à-vis de quelle institution on doit contacter et comment, dans quel mode de relation Est-ce que c'est un rapport de subordination ou est-ce qu'on a quelque chose à exiger d'elle? Et c'est un peu ça que je trouve qu'il faut changer. Je m'en fiche d'avoir la possibilité d'avoir une scénographie à 10-15 000 euros. C'est pas, en fait, c'est pas ça. Le but, c'est juste quelles sont nos conditions de travail et à quel endroit de la société on veut s'inscrire. C'est touchy, ces questions-là, mais la question de l'entre-soi culturel... est-ce qu'on demande un refinancement massif pour continuer à faire culture entre nous et se comprendre entre nous et... Je crois aussi à la contamination, hein, donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire en groupe. On n'est pas obligé de toujours s'adresser, je ne suis pas pour une culture mainstream qui ne parle qu'en langage compréhensible de tous et qui lisse tous les vocabulaires. Je suis pas, c'est pas non plus ce que je dis. Mais par contre, oui, repolitiser la question artistique, la question du secteur culturel, à quel endroit on s'inscrit, à qui on parle. Sachant que lorsqu'on se met entre nous, on le fait pour faire grandir une idée, grandir une pratique, qu'après on vient peut-être s'insérer ailleurs, je sais pas. Là, c'est un peu frais comme idée dans ma tête, mais pour moi, ça rejoint la question du privilège. Je pense que quand même la plupart des artistes qui arrivent à faire ce métier, qui arrivent à aussi entrer en dialogue avec les institutions, voilà, sont des gens qui ont un certain privilège. Et on peut pas que, pour moi, on peut pas que tisser des récits à partir de ce privilège-là sans en avoir conscience. Et je pense qu'il est il est urgent, hyper important d'utiliser cette position-là, ces outils-là, pour revenir tisser des récits avec éventuellement ceux qui... d'autres paroles, en fait, justement, des paroles plus minoritaires, des paroles oubliées ou invisibilisées. C'est-à-dire que parfois, c'est aussi structurel, conscient. Enfin, c'est toujours structurel, mais c'est parfois conscient. Ouais, moi, c'est ça que je veux continuer à voir changer. C'est ça qu'on voit déjà opérer là. C'est un peu ce geste... ce geste du poète qui parle de son intériorité, ça peut plus être ça, en fait, pour moi. Il faut continuer à parler des intériorités, bien sûr, comme d'autres choses. Mais la question que moi, j'aimerais me poser maintenant, c'est qui est ce poète? D'où parle-t-il? À qui parle-t-il? Et voilà. Thank you.